Pierre Vallée, Pebble, bienvenue sur Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble. Aujourd'hui, dans notre quatrième épisode, nous allons continuer à questionner le monde du handicap. Dans les précédents épisodes, nous avons pu commencer à explorer les différentes définitions, les termes employés pour décrire les personnes en situation de handicap. Et nous commençons à dégrossir la thématique en décrivant les différentes catégories. La dernière fois, nous avons exploré la question du handicap invisible. Je l'ai choisi en première catégorie pour la simple et bonne raison que c'est 80% des personnes en situation de handicap qui sont touchées par un handicap invisible. Alors que paradoxalement, c'est l'une des dernières catégories qui est décrite. Aujourd'hui, nous allons discuter autour du fameux handicap moteur, l'un des types de handicap les plus connus, via ce petit pictogramme du fauteuil roulant sur fond bleu. Aujourd'hui, je n'ai pas le plaisir d'avoir notre directrice Guylaine Dubois comme la dernière fois, mais je vous rassure, chère auditrice, elle reviendra. Aujourd'hui, j'ai avec moi un autre invité, Henri. Bonjour.
Bonjour Damien.
Comment allez-vous sous cette chaleur montpellierenne?
Ça va et vous?
Ça va, merci. Alors, est-ce qu'Henri, vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce que le handicap représente pour vous? En quoi vous vous sentez concerné par cette question?
Je suis Henri Bessou, j'ai 27 ans, jeune étudiant à Artifix à Montpellier. J'ai été victime d'un accident de la voie publique en 2014. Et suite à cela, j'ai perdu ma jambe gauche et voilà. Du coup, je suis à Paris maintenant.
D'accord. Suite à cet accident, je suppose qu'il y a eu des mois de rééducation, d'opérations sûrement qui ont dû être éprouvantes autant que physiquement que psychologiquement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus?
Oui, alors à l'accident, j'avais encore ma jambe. Ils ont essayé de la sauver. Il y avait trop de nécrose. C'était quoi, ils savaient déjà d'avance que c'était perdu. Ils ont quand même cherché à la sauver, mais au bout de quelques jours, ils ont dû m'annoncer qu'il fallait couper. J'ai suivi le mouvement, quoi. Il fallait, je pouvais pas rester avec une jambe morte. Et j'avais l'impression d'être dans un cauchemar, quoi. Je voulais à tout prix me réveiller. C'était horrible, quoi. L'impression de, en plus avec les médicaments qu'on a, la morphine, la kétamine, on a l'impression d'être dans une chambre différente chaque jour, à chaque instant de la journée. C'était vraiment déroutant. On n'avait pas trop de repères, mais heureusement qu'après, il y a la famille et les amis qui viennent pour nous réconforter. Et ensuite, j'ai commencé la rééducation en novembre. Et j'ai pu me faire appareiller qu'un mois après parce que j'avais la jambe droite de cassée. Donc on a dû attendre d'enlever le matériel pour pouvoir me rééduquer. Et la rééducation en tout a duré 4 mois avec une prothèse remboursée par la sécurité sociale qui permet de marcher normalement.
Non, ce qui fait, si je calcule bien, qu'en début 2015, vous êtes sorti de la rééducation avec cette prothèse et une nouvelle possibilité de marcher.
Oui. Après, c'est quoi ? Il faut pas aller dans l'eau. Faut éviter de trop marcher non plus parce que ça la fait chauffer. Quoi, il y a la batterie aussi, elle est pas terrible, donc c'est trois jours de batterie. Donc, sinon après la jambe se bloque une fois que la batterie est vide. y a des soucis aussi. Quoi, on n'est pas confortable forcément quand on marche en montée ou en descente. C'est quand même plus physique. Même les escaliers. La ville, quoi, toutes les villes ne sont pas adaptées pour l'handicap moteur.
D'accord. Donc, vous avez parlé de batterie, donc je suppose que c'est la prothèse qui possède elle-même une batterie pour l'aide à la marche.
Oui, c'est ça, c'est ça.
D'accord. Et est-ce qu'on peut toujours appeler ça la marche? Parce que je suppose qu'avec une prothèse, ça reste une marche assez atypique. On ne peut pas réellement marcher comme tout le monde. Ou est-ce qu'au niveau des sensations, on est quand même à l'aise, avec un certain confort, mis à part les situations que vous avez décrites, les escaliers, les montées, les descentes?
En fait, c'est une question de temps. Il faut vachement de temps pour s'habituer vraiment à la prothèse en elle-même, pour bien la maîtriser. C'est plus une question de temps.
D'accord. Moi, j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit. Donc, la première, dans le cas des personnes amputées, il y a toujours cette fameuse question de la douleur fantôme. Est-ce que pour vous, ça a été le cas? Comment vous pourriez la décrire? Est-ce que vous savez si c'est toujours le cas? Est-ce qu'on est obligé de passer par cette douleur fantôme avant d'aller plus loin et de sentir finalement bien?
Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le cerveau qui pense qu'on a toujours notre jambe et du coup il envoie toujours des signaux et ça crée les douleurs fantômes. Moi j'ai eu comme sensation, comme si ça passait, ma jambe passait dans plein de petits tubes, quoi, c'était aspiré vraiment sous vide, ou alors sensation de se faire étirer. Écartèlement, quoi. Et j'en ai eu beaucoup, de très grosses. J'ai eu les électrodes qui m'ont aidé à calmer la douleur. Et aussi, j'ai eu un traitement anxiolytique qui agissait sur le système nerveux pour calmer ces douleurs. Mais maintenant, j'en ai plus trop, même si ça m'arrive de temps en temps encore. Mais voilà.
D'accord. Et je suppose que à la suite de cette rééducation en hôpital, il y a quand même une rééducation en libéral qui continue avec tes kinésithérapeutes ou pas?
Alors moi non. Une fois que j'ai fini la rééducation, donc je suis sorti. J'ai refait un peu de rééducation tous les ans, quoi. C'est conseillé d'en faire, mais après, c'est une question c'est à nous-mêmes de faire de continuer à s'entraîner, à marcher, à faire de l'activité physique.
D'accord. Si on peut. D'accord. Vous me parlez d'activité physique, il me semble que c'est votre cas. Vous faites du sport, vous avez pu continuer le sport?
Oui, alors avant je faisais du jiu-jitsu et j'ai pu continuer avec ma première prothèse. Suite à cela, après j'étais parti à Toulouse, bon, on m'avait refusé. Je crois que c'était un problème de souci d'assurance ou quoi, donc voilà. Alors que j'en avais déjà fait. Et là sur Montpellier, j'ai pu reprendre. J'ai pu apprendre le ninjutsu.
D'accord. Donc, question d'assurance, refus. Donc, en effet, c'est le genre de situation chez Auditoris qui arrive assez fréquemment. Malheureusement, moi, apparemment, en situation de handicap, on aurait besoin d'une assurance supplémentaire parce que nous sommes plus à risque de mourir, peut-être, apparemment. Mais non, vous inquiétez pas, on connaît notre handicap, on sait le prendre en charge et on sait ce qu'il ne faut pas faire. Henri, donc vous êtes amputé, vous avez une prothèse. Où vous placez-vous dans le champ du handicap moteur? Parce qu'il faut savoir que, tout comme le handicap invisible qui recoupe toutes les catégories de handicap, je tiens à le rappeler, c'est un spectre extrêmement large qui peut aller de la personne qui boite à la personne qui peut uniquement utiliser sa tête, bouger son cou. Au milieu de tout ça, il y a une ribambelle de personnes. Est-ce que pour vous, il y aurait une place à trouver? Est-ce que la personne amputée avec une prothèse a une place dans cette catégorie? Ou est-ce que c'est une catégorie autre?
Alors là, avec la prothèse que j'ai actuellement, je me considérerais plus dans la catégorie la personne qui boite. Parce que je peux faire, voilà, je peux courir. Bon, c'est pas du sprint, mais je peux courir, je peux aller dans l'eau pendant une heure, mais c'est toujours ça, ça fait toujours plaisir.
Surtout par les températures actuelles.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, non, je suis quand même assez content, même s'il y a des progrès encore à faire au niveau technologique. On attend de voir ce qui sera proposé, et c'est pas forcément accessible pour tout le monde aussi. J'ai un tiers responsable, c'est pour ça que j'ai pu avoir cette prothèse-là.
D'accord, donc en effet, vous dites qu'il y a aussi une capacité financière à avoir pour avoir la prothèse la plus performante parmi les choix disponibles, ce qui est exactement le cas pour les fauteuils roulants. Il y a des fauteuils roulants totalement remboursés, d'autres où il faut réussir à mettre un peu plus d'argent pour réussir à avoir le fauteuil qui nous convient au mieux. Vous avez parlé de personnes tierces responsables. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un accident de la route par un chauffeur qui était alcoolisé.
Oui. Et sans permis.
C'était pas sa voiture. Le combo. Magnifique. Le tiercé gagnant. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là contre la personne responsable, finalement?
J'ai quand même évolué sur mes sentiments sur cette personne-là. Le jour du jugement, j'étais vraiment très en colère, quoi. J'avais envie de le tuer, quoi, parce que il avait le sourire aux lèvres pendant le procès, donc ça m'avait un peu titillé. Et voilà, après maintenant, non, j'ai tourné la page et j'ai décidé de prendre ma vie en main. C'est pour ça que j'ai repris des études dans un domaine qui me plaît. Et voilà, je pense plus trop à cette personne-là, en fait. Il mène sa vie, je mène la mienne.
Et cette personne qui avait le sourire aux lèvres durant le procès, quel a été le verdict?
Alors, il a eu 2 ans de prison avec un enferme, mais bon, il a fait avec le bracelet. Il a eu 500 euros d'amende du non-respect du code de la route, 800 euros à me verser et 800 autres euros qui ont été versés à mes 2 amis qui ont été touchés aussi. Donc ça a été moins grave pour eux, mais ils ont été touchés aussi.
Très bien. On aurait pu s'attendre à des décisions un peu plus fermes, je pense. Mais bon, apparemment, voilà ce que ça coûte de prendre la jambe à quelqu'un. Finalement, peut-être pas grand-chose. Pour revenir sur la question du handicap moteur, qui est extrêmement large, je tiens à vous rappeler, chers auditeurs, la définition du handicap moteur que j'ai pu trouver sur le site de l'ONICEP. Le handicap moteur se caractérise par une aptitude limitée à se déplacer, à exécuter des tâches manuelles ou à mouvoir certaines parties du corps. Donc en effet, quand on parle d'handicap moteur, ce n'est pas uniquement la capacité à se déplacer, c'est aussi la capacité à manœuvrer ses mouvements et ses membres. Dans le handicap moteur, nous avons 4 sous-catégories. L'origine médulaire, l'origine cérébrale, l'origine neuromusculaire, l'origine ostéo-articulaire. Tout ça pour vous dire, cher auditeur, qu'encore une fois, c'est un vocabulaire très médical, comme toujours. Vocabulaire que nous utilisons jamais. Henri, parmi ces 4 catégories, est-ce que vous sauriez me dire à quelle catégorie vous appartenez ?
Absolument pas.
Très bien, et bien moi non plus. Donc voilà, pour dire, je ne suis pas sûr que ça soit très utile dans la vie quotidienne. Face à un médecin, peut-être, mais nous ne sommes pas tout le temps face à des médecins. Et encore heureux. pour continuer et pour faire la comparaison, parce que moi aussi, je suis atteint d'un handicap moteur très différent de celui de Henri. Je suis moi-même en fauteuil roulant électrique et je pense qu'au niveau du fauteuil, il y a aussi beaucoup de progrès à faire, comme la plupart des gens ne sont pas en fauteuil roulant et quand ils ont la possibilité, ils en sortent en fait, ce qui est mon cas. Même si la plupart des gens sont toujours surpris de me voir debout et de me voir marcher, quand c'est possible, on le fait. Et je préfère que vous gardiez ça en tête, qu'une personne en fauteuil ait encore la possibilité de se lever. Je suppose que vous aussi, Henri, au début, vous étiez en fauteuil roulant aussi. Je suppose que la prothèse n'a pas permis de remarcher du jour au lendemain.
Oui, c'était vraiment des sessions très très courtes pour réhabituer le muscle. Donc, ouais, j'étais souvent en fauteuil roulant et c'est vrai que quand on est debout, ça fait du bien. Ouais, ça...
Oui, ça fait du bien, je vous le confirme, même si c'est souvent avec difficulté et en mettant difficulté autrui. Comme nous disions lors du premier épisode, peut-être que c'est autrui qui est aussi en situation de handicap en étant obligé de s'adapter à nos capacités, à notre vitesse de déplacement. Mais nous reviendrons sur cette question après une petite pause musicale où vous pouvez sauter un peu partout, chers auditeurs, puisqu'il s'agit de Cowboys from Hell de Pantera. Un morceau de métal que j'affectionne tout particulièrement. À tout à l'heure. Et nous voici de retour sur Dear Valley People, toujours sur Radio FM+. J'espère que vous vous remettez de ce moment de pogo, de slam, peu importe si vous étiez dans votre voiture ou avec des gens. J'espère que vous avez apprécié ce morceau de Cowboys From Hell de Pandera. Je suis toujours en compagnie de Henri pour discuter de la question du handicap moteur. Donc en première partie, nous avons pu discuter de l'accident de Henri, de pourquoi il a été amputé de cette jambe qui aujourd'hui a une prothèse et peut marcher, comme tout le monde. Nous avons un petit peu commencé à discuter de l'interaction avec autrui. Est-ce que Henri, vous êtes capable de nous dire en quoi vos interactions avec les autres ont changé depuis votre accident?
Alors, avec la famille et les amis, pas tant que ça. Je suis resté toujours le même. Mais ensuite, ça a été plus la première fois où je suis sorti en short. La prothèse apparente et le regard des gens qui... Voilà, bon, c'est de la curiosité, mais les premières fois, c'est quand même choquant. Ça fait bizarre. Déjà que je suis quelqu'un qui à la base est discret, mais là ouais non, je suis obligé de changer pour...
Vous êtes obligé de vous mettre en avant, même si vous n'en avez pas réellement envie.
C'est ça, faut apprendre à changer, voilà. Bon, c'est pas plus mal. Hein.
Oui, normalement c'est pour le mieux, je dirais. Dans mon cas aussi, petit à petit, j'ai dû... progresser, une démarche de plus en plus atypique, puis une marche en ambulateur pour être finalement fauteuil roulant. Et il y a des choses qui se passent avec les gens quand on est encore debout, en fait, même si on a une démarche atypique, les gens s'amusent, trouvent toujours des justifications. Il est bourré ou voilà, ils pensent pas à garder leur chemin pour eux. Et on en a un peu parlé, notamment lors de notre épisode sur le handicap invisible, ou le fait que le handicap soit invisible. On a l'impression que les gens sont comme tout le monde et ça peut avoir des réactions assez agressives, comme par exemple dans les files d'attente, où on demande gentiment de passer... devant tout le monde et les gens ne comprennent pas pourquoi, ils nous regardent méchamment. Je vous vois faire oui de la tête, Henri. Est-ce que ça vous est déjà arrivé personnellement?
Alors oui, je suis à... Quoi, au début, j'étais souvent en pantalon et bon, y a par exemple, quand j'essayais de passer oui, devant, parce que voilà, j'étais prioritaire, les gens me disaient de reculer, quoi. Ou alors, quand on se gare sur une place handicapée, qu'on sort debout, en train de marcher correctement, les gens ils vous regardent légèrement, un peu en mode gendarme, mais voilà, c'est marrant à la fin.
Alors que finalement, on est d'accord pour dire que même en prothèse, la station debout n'est pas une position la plus agréable pour vous, je pense.
Ouais, c'est, de temps en temps, c'est un peu contraire.
Alors que contrairement au fauteuil, quand on est en fauteuil, on est assis, donc on peut patienter autant de temps qu'il le faut. Et pourtant, les gens, quand ils nous voient arriver, se poussent allègrement pour nous laisser passer alors que nous n'en avons pas forcément besoin. Vous avez parlé donc de la famille, les amis, ça n'a pas beaucoup changé. Les inconnus un petit peu et même beaucoup, je dirais. Et sur les nouvelles rencontres, comment cela se passe? Est-ce qu'il y a une évolution? Au début, une certaine appréhension, des gènes visibles et petit à petit, les gens... se rendre compte que finalement, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question à éviter.
Là, c'est, quoi, avec la classe dans laquelle je suis, ça se passe plutôt très bien même. Ils voient que j'arrive à déconner sur mon handicap et voilà, ils savent que ça me fait rire, quoi. Même s'ils sortent eux aussi une blague sur handicap, ça me dérange pas, quoi. J'ai quand même assez humour noir, donc j'aime bien. Ouais.
D'accord. Et on va parler, justement, on en a un petit peu parlé au niveau de l'école. Est-ce que la scolarité a été problématique, reprendre une scolarité en étant en situation de handicap?
Non, pas forcément par mon handicap, mais plus parce que voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas repris des études et que ça se fait sentir de se remettre dans le bain. Et ça m'arrivait quelquefois d'avoir des douleurs fantômes, comme j'ai dit précédemment. Sinon, ouais, ça se passe très bien. L'établissement est équipé pour y ascenseur, rampe.
Donc finalement, vous parlez des ascenseurs, des rampes, vous avez évoqué tout à l'heure aussi des problématiques d'accessibilité dans les villes en tant que personne en situation de handicap moteur. Finalement, toutes les solutions d'accessibilité pour les fauteuils roulants sont aussi valables pour vous avec votre prothèse ?
Peut-être pas autant, mais je pense que si on se mettait tous au niveau, ça serait beaucoup plus facile pour tout le monde, pour tout type de handicap, je pense. Ouais, de moteur, pardon.
Oui, ouais. Je pense aussi, même de manière générale, il me semble que si c'est possible pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est possible pour les personnes en situation courante. Je pense qu'entre une rampe et des marches, les gens naturellement se dirigent plus facilement vers la rampe que vers les marches. Donc finalement, pourquoi pas faire quelque chose disponible pour tout le monde et que ce soit facile pour tout le monde. Est-ce que vous auriez une expérience à nous raconter par rapport à la prothèse qui vous marque? Est-ce que vous avez un événement que vous gardez en tête?
Alors je crois que un des plus... Il y a eu deux gros souvenirs, c'est... quand il y a eu la naissance de ma nièce, ben ça c'était vraiment formidable. Sinon après, oui, quand j'ai réappris à courir donc avec ma prothèse, là j'étais aux anges. c'était vraiment magnifique.
Les réactions des gens, est-ce que vous avez des réactions qui sont assez marquantes? Parce que je sais que moi dans mon cas, en fauteuil, il peut se passer des réactions assez marquantes. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on a la possibilité de se mettre debout et qu'on sort de notre fauteuil, c'est le miracle de Jésus. Donc c'est toujours assez rigolo de voir la réaction des gens. Après... je sais qu'en fauteuil aussi, ce qui se passe, c'est que les gens veulent toujours essayer de nous aider, quoi qu'il se passe. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a une raison à ça ou pas du tout?
Ah, je n'ai pas cette chance-là, non. Malheureusement, non. Non, après, par exemple, dans les trams ou quoi, il n'y a pas... Qu'il y a toutes les places qui sont prises par des personnes valides, ils ne cherchent pas forcément à vous laisser la place. Ça serait plus pratique, quoi. Parce que déjà, debout, et vu que ça remue pas mal, c'est pas forcément confortable de tenir debout avec une prothèse. Voilà.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des moments où vous retirez votre prothèse, justement, lorsque vous êtes assis à la plage, au bord d'un lac ou...
Pas à la plage, parce qu'il faut que j'évite d'exposer le moignon au soleil, parce que sinon, avec un coup de soleil, quand je remets le manchon et la prothèse, je peux plus marcher. Donc ça, à éviter. Non, sinon, c'est surtout le soir ou quand ça me brûle vraiment la peau. Le manchon assèche très très vite la peau, Et surtout, quand il fait très chaud comme ça, le manchon, avec la transpiration, a tendance à descendre. Et l'emboîture, donc, vient taper directement, se frotter sur la peau. Et ce qui fait saigner parfois ou créer des petites brûlures.
D'accord. Et pour les gens en situation courante, est-ce qu'ils ont des réactions spécifiques en rapport avec le membre amputé ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont témoins lorsque vous enlevez votre prothèse, par exemple, ou pas?
Alors, au début, j'osais pas trop enlever devant tout le monde. Et puis, là, ça m'est arrivé, par exemple, à l'école. Dès que je sentais que ça me brûlait trop, mais j'étais en short, mais je l'enlevais, et voilà, ça me dérangeait pas, et je pense pas que ça leur dérangeait non plus, quoi. Ils savent que voilà, j'ai une prothèse, ils connaissent mon handicap, donc.
Et je suppose que c'est une progression, comme vous avez dit tout à l'heure, au début vous étiez en pantalon, puis vous avez osé mettre des shorts, puis ensuite vous avez osé enlever la prothèse en public. Je suppose que ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce qu'au niveau des relations intimes, est-ce que ça a un impact pour vous ou pas du tout?
Alors du coup, vu que j'étais timide déjà de base, j'ai dû voilà, me décoincer un peu, on va dire. Et du coup, ouais, non, je tente pas mal, mais après, c'est vrai que je prends pas mal de vent, on va dire, par rapport à mon handicap. Quand ça se passe très bien, puis dès que la personne voit que je suis amputé, ça m'est arrivé de... Voilà, de Après, je me dis, voilà, c'est pas la bonne personne. Tant pis.
Donc vous me dites que c'est à cause du handicap, en fait, lorsque la personne le découvre.
Quand elle le voit, quoi, ça m'est arrivé quelquefois que voilà, je tombais sur des personnes comme ça. Mais bon. Après, je pense que si là, j'ai des périodes où j'ai pas trop confiance en moi et du coup, je bloque sur le handicap, en fait. Je me dis que voilà, vu ce que j'ai déjà vécu, je me dis que voilà, c'est peut-être que je plais pas forcément avec la prothèse en plus, quoi.
C'est quand même dommage parce que je pense que ça ne change pas grand-chose dans les interactions. Normalement, vous avez pu décrire, même vous êtes plutôt plus proche d'une personne en situation courante qu'autre chose. Je pense que vous serez d'accord avec moi si je dis que vous êtes aussi quelqu'un avec un handicap invisible. Surtout lorsque vous êtes en pantalon, pour le coup, personne ne voit que vous avez une prothèse et finalement, je ne vois pas la différence que ça donne. Mais
Mais surtout qu'après, pendant les rapports, c'est pas ça qui voilà qui
oui, vous avez retrouvé beaucoup de capacités, comme vous dites, vous pouvez quand même courir. On certes à votre manière, mais vous pouvez courir. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut aussi se garder ça en tête, je pense, que c'est aussi un privilège de pouvoir recourir. Et je pense que vous l'avez bien compris, Henri, puisque vous l'avez perdu un moment et quand vous l'avez retrouvé, ça a été une joie extrême. Pour finir, moi j'aimerais un peu ouvrir la question du handicap moteur, parce que c'est vrai que là on est beaucoup sur la question du déplacement avec une prothèse notamment. Dans certains cas plus avancés, il y a aussi la question de la manette, d'utiliser ses bras, d'avoir une maîtrise de son propre corps. Et il y a un débat que j'ai un peu philosophiquement, que je voudrais partager avec vous. C'est cette question qu'aujourd'hui on essaye d'être démocratique, de démocratiser le handicap, que tout handicap a sa place. Aujourd'hui, on essaye d'en parler de plus en plus. toujours de la même manière, malheureusement, ce que j'essaye de changer ici. Et dans un même temps, on est dans une société où la maîtrise est toujours mise en avant, il faut toujours réussir à maîtriser de mieux en mieux, de plus en plus. Et je pense que le corps n'est pas exempt de cette question. Comment pensez-vous, Henri, par rapport à vos expériences? Est-ce qu'on vous a déjà reproché un manque de maîtrise, un...
Non, pas vraiment, quoi. Sauf peut-être le jour de... Quand j'ai eu le médecin expert qui est venu voir pour la prothèse, justement, pour financer la prothèse. Le médecin expert adverse et qui me disait que voilà, j'ai pas forcément le niveau, ou alors il me disait que c'est, vous rendez compte, c'est le prix d'une Porsche ou un truc comme ça. Il m'a sorti plein de trucs, j'ai pas trouvé très humain cette personne là
En effet, en situation de handicap, oui, on se retrouve dans des situations où nous sommes jugés sur nos capacités, sur notre niveau de handicap. Mais je pense que, avec les gens, de manière générale, nous sommes jugés aussi sur nos capacités ou sur nos incapacités, alors que les gens ne savent pas, finalement. Comme j'ai pu le dire lors de l'épisode précédent, les personnes en situation de handicap moteur, même en fauteuil, ont toujours des capacités, et notamment les capacités d'ouvrir une porte. Alors certes, d'ouvrir une porte différemment que la plupart des gens, mais on peut toujours le faire et on aime le faire parce que toujours avoir la possibilité de faire des choses, c'est appréciable de se le donner à nous et de pas forcément demander à autrui de l'aide. Donc c'est pour ça, en effet, ça peut être très appréciable de l'aide d'autrui et en même temps, on peut assez mal le prendre. Sur cette dernière question, ceci clôture le quatrième épisode de Dear Valley People. Merci à Henri d'avoir participé.
Merci Damien.
Tout le plaisir pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de la radio. Je me ferai un plaisir de vous lire et de répondre à votre question. À très bientôt.